Pierre Leroux, 1846, d'une religion nationale ou du culte. Avant-propos. Premièrement, nos pères ont écrit sur leur drapeau « Liberté, fraternité, égalité, unité ». Quand nous entendons outrager cette devise, ce n'est pas de l'indignation que nous éprouvons, c'est de la pitié. Mais néanmoins, nous convenons volontiers que, toute sainte qu'elle soit, cette devise n'est encore qu'une phrase exprimant la vie d'aspiration et de désir de l'humanité. Nos pères, résumant en eux l'humanité, ont posé un problème qu'ils n'ont pas résolu. La preuve qu'ils ne l'ont pas résolu, c'est la situation actuelle de la France et du monde. Où trouverez-vous ce que ces termes de liberté, de fraternité, d'égalité représentent? Où trouverez-vous l'unité, c'est-à-dire la synthèse, qui permettrait aux hommes de réaliser entre eux la liberté, la fraternité, l'égalité? Au lieu de l'unité, l'État n'offre aujourd'hui qu'une anarchie, dans laquelle règne la licence sous le nom de liberté, où l'égoïsme occupe le rang que devrait occuper la fraternité, et où le despotisme, sous des noms divers, remplace l'égalité. On dit que Goethe, quand il sentit venir la mort, s'écria « La nuit, la grande nuit !» et ne dit plus rien ensuite. À voir ce que devient la France, on serait tenté de s'écrier « La nuit, la grande nuit !» et de se voiler la tête. On aurait tort pourtant, car ce serait prendre pour la mort ce qui n'est qu'une crise de la vie. L'humanité est arrivée à se révéler sa nature et sa destinée, ses droits et ses devoirs. Qu'y a-t-il d'étrange qu'elle soit tombée dans la prostration qui suit toutes les exaltations sublimes? La grandeur du mal présent répond à la grandeur de notre idéal. Au lieu de se voiler la tête, il faut s'attacher aux problèmes posés par nos pères. Il faut embrasser avec foi leurs formules. Il faut en faire une science, une religion. Il faut, disaient nos pères, élever à la hauteur d'une religion cet amour sacré de la patrie et cet amour plus sublime et plus saint de l'humanité, sans lequel une révolution n'est qu'un crime éclatant qui détruit un autre crime. C'est à quoi, pour notre part, nous avons consacré notre vie tout entière. Aucun autre but ne pouvait nous paraître utile en comparaison de celui-là. Deuxièmement, le petit traité que l'on va lire a donc cet objet, comme nos autres écrits, « Facies non omnibus una, nec diversat amen ». Nous essayons d'y prouver qu'il est possible de concevoir une religion sans théocratie. Une religion sans théocratie serait la vraie religion. Une religion sans théocratie serait cette unité invoquée par nos pères, cette synthèse où les hommes réaliseraient entre eux la liberté, la fraternité, l'égalité. Troisièmement, depuis quelques années, on s'est habitué à appeler socialistes tous ceux, quels que soient leurs principes et leurs plans, qui invitent les hommes à sortir de l'anarchie et à reconstituer l'ordre social. À ce titre, nous-mêmes qui avons, il est vrai, toujours combattu l'individualisme, mais qui n'avons pas moins combattu contre toute fausse doctrine qui sacrifierait l'individualité à la société collective, nous sommes aujourd'hui désignés comme socialistes. Nous sommes socialistes sans doute si l'on veut entendre par socialisme la doctrine qui ne sacrifiera aucun des termes de la formule « liberté, fraternité, égalité », mais qui les conciliera tous. Dans notre foi profonde, en effet, tout système qui ne satisfait pas à tous les termes de cette formule ne peut être qu'une erreur. C'est avec ce critérium que la postérité, sortie des ténèbres où nous sommes, prononcera en définitive sur les systèmes qui se produisent aujourd'hui. Nos enfants seront les juges, mais cette formule de nos pères sera la base de leur sentence. Je dis que nos enfants prononceront d'après cette formule, mais nous-mêmes, que nous en ayons ou non conscience, n'est-ce pas d'après cette formule que nous jugeons dès aujourd'hui et le présent, et les systèmes qu'il engendre, et les utopies qu'on lui oppose? chose admirable. Elle est méconnue, outragée, cette formule. Outragée souvent par ceux qui s'abandonnent à des rêves d'avenir, comme par ceux qui exploitent un présent inique et ignominieux. Les réformateurs qu'elle embarrasse la méconnaissent, et les conservateurs qu'elle dévoile n'ont pas assez de dédain pour elle. Et c'est elle pourtant qui décide de la vie et de la mort, de la gloire et de la honte. Elle n'est pas réalisée, et c'est elle qui renverse et plonge dans l'oubli ce qui usurpe ou tenterait d'usurper sa place. Rien ne subsiste, rien ne prend une apparence qu'en lui empruntant une portion de vérité, sauf à disparaître bientôt comme un fantôme, parce que la vraie vérité, si je puis m'exprimer ainsi, la vérité complète, est à l'état virtuel dans nos âmes, révélation de Dieu qui ne passera qu'avec l'humanité, au sein de laquelle elle est aujourd'hui incarnée. Comme le Christ, qui fut un de ses annonciateurs, elle règne donc déjà avant de régner, cette formule si dédaignée. Son règne n'est pas encore venu, mais il viendra. Elle croit dans le présent pour l'avenir, et comme c'est elle à qui l'avenir appartiendra, c'est elle déjà qui juge le présent. Pourquoi la réalité nous est-elle si odieuse? Pourquoi y étouffons-nous comme dans un tombeau? C'est que la sainte formule que ce présent offense brille au fond de nos cœurs, éclairant ceux-même qui la nient. Pourquoi les systèmes que ce présent fait naître, qui s'appuient sur lui et lui servent d'appui à leur tour, pourquoi par exemple le constitutionnalisme emprunté aux Anglais et l'économie politique anglaise et le pur libéralisme, ou cette chose sans idée qu'on appelle doctrinarisme, ou cette autre chose sans solidité et sans idéal qu'on appelait éclectisme, sont-ils déjà tombés? C'est que la sainte formule, que tous ces systèmes méconnaissent, les a renversés. Elles meurent, toutes les gloires d'un passé qui s'efface. Mais la formule immortelle ne passera point. Et les utopies? Combien ont déjà rencontré la postérité? Combien sont jugés pour avoir offensé ou la liberté, ou la fraternité, ou l'égalité, ou plutôt toutes les trois? Car comme des sœurs, elles se tiennent, ces trois filles de Dieu, s'il n'est pas plus vrai de dire qu'elles sont, comme Dieu, une seule et même chose en trois personnes. Il serait utile et intéressant d'examiner à la lumière, de cette seule formule, les défauts de tous ces systèmes. On verrait pourquoi ils ont été jetés au vent, ou méritent d'y être jetés. Ludibria Ventis. Mais une pareille étude, pour être bien faite, demanderait un livre. Nous n'écrirons pas un livre pour servir d'avant-propos à un traité de quelques pages. Quatrièmement, si nous avons pensé à joindre quelques mots de préface à cette réimpression, c'est dans un autre dessein. C'est pour prévenir toute fausse interprétation de nos idées. C'est pour empêcher l'abus que l'on pourrait faire de nos paroles. Nous cherchons l'unité, et nous démontrons la possibilité de l'établir. À quoi tient-il, en effet, que l'unité ne s'établisse? À ce qu'on n'a pas compris encore qu'il fut possible de concilier l'autorité et la liberté, d'avoir un culte national sans despotisme religieux, une société complète où l'homme fut complet. Nous essayons de résoudre ce problème, et au moyen de distinctions claires, fondées sur la nature, et qui, suivant nous, s'établiront tôt ou tard dans l'esprit humain, nous démontrons que l'antinomie de l'individu et de la société peut cesser d'exister, qu'il n'y a pas une dualité invincible entre les droits de l'homme et les droits de la société, que loin de là, l'individu ne trouvera réellement la liberté religieuse qu'au sein d'une société organisée religieusement. Certes, c'est aimer l'unité que de travailler ainsi à l'établir, et c'est pour ainsi dire l'établir déjà, au moins c'est la constituer virtuellement que de la démontrer possible. Nous ressemblons à un mécanicien dessinant une machine qui n'est pas encore exécutée, mais qui peut l'être. Or, ce qui est une fois démontré possible s'exécute tôt ou tard, car si les hommes ne réalisent pas le bien, c'est qu'ils ne le croient pas possible. Mais pouvons-nous aimer ainsi l'unité et la juger possible sans condamner les sectes en principe, sans les déclarer mauvaises et absurdes au point de vue de l'idéal? nous n'aimerions pas l'unité si nous aimions les sectes en tant que sectes. Or, qui sait si nos convictions ne paraîtront pas favorables à l'Inquisition? Nous nous servons à dessein de ce mot parce qu'il est mérité. À l'Inquisition établie aujourd'hui contre la liberté des cultes et contre toute manifestation d'opinion religieuse. Il est permis de tout craindre quand on connaît l'hypocrisie qui règne au sujet de la religion. Dans toutes nos lois, dans toutes nos constitutions, dans toutes nos chartes, la liberté des cultes, la liberté religieuse, est proclamée avec une sorte d'ostentation, comme un principe inviolable et sacré. Mais en fait, elle n'existe pas, et quiconque a visité les pays étrangers voit avec une profonde douleur l'esclavage où les Français sont tombés sous ce rapport. En général, sous prétexte de liberté, les Français n'ont aucune liberté. Ils sont libres négativement. Ils sont libres de penser, mais ils n'ont pas la permission de se réunir pour se communiquer leurs pensées. Ils sont libres d'imprimer leurs pensées, mais ils ne sont pas libres d'avoir une presse et des caractères d'imprimerie. La liberté de l'imprimerie, qui existe en Angleterre, en Amérique, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays libres, n'existe pas en France. Il faut aussi que ces Français, si libres, aient un capital disponible, s'ils veulent publier un journal, qu'ils fournissent caution et qu'ils paient rançon. Leur pensée, si libre, ne peut parcourir le monde que chargée d'un impôt qui lui rogne les ailes. Ils sont libres aussi de leur personne, ce qui ne les empêche pas de pouvoir être incarcérés préventivement et retenus en prison pendant des années entières, sans jugement et sans indemnité, car il n'y a rien en France qui ressemble à l'habeas corpus des Anglais. Ils sont libres enfin de disposer de leur travail, c'est-à-dire que, sous le nom de liberté d'industrie, ils sont libres d'être esclaves et libres de mourir de faim. Je ne trouve pas d'autre terme pour exprimer l'épouvantable esclavage sous lequel j'ai mis, au nom de la liberté, l'immense majorité de la nation. Quand je pense que le salaire n'a pas augmenté monétairement depuis 89 et que les objets de première nécessité ont augmenté du quart au tiers, que ce qui croît sans cesse, c'est le revenu net concentré dans les mains de moins de 200 000 propriétaires, que le résultat de cette liberté d'industrie est que la France, pour n'avoir qu'un paupérisme à peu près égal à celui de l'Angleterre, est forcée de ne pas s'accroître plus que le Portugal et la Turquie, que depuis un demi-siècle, l'accroissement de cette France si libre ne s'est pas élevé à la moitié du terme moyen général de l'Europe, et que si nous avons aujourd'hui quelques millions de populations de plus qu'en 89, ce sont des millions de misérables. Quand je pense à cela, dis-je, et que je vois appeler liberté un mécanisme aussi spoliateur, aussi destructif de la nature humaine, et on me permettra de le dire, aussi assassin, un mécanisme qui, et la chose est démontrée, a empêché de naître ou a fait mourir de misère depuis un demi-siècle plus du double de la population actuelle, je ne puis m'empêcher de penser que cette liberté sans organisation n'est que la liberté du mal. Mais c'est sous le rapport religieux que cette lacune de liberté réelle, de liberté efficace, de liberté du bien, se manifeste peut-être avec le plus d'évidence. Là, en effet, la liberté du mal, la liberté du néant, se montre avec une exubérance, avec une amplitude qui ne connaît pas de bornes, mais la liberté du bien est aussi exiguë, aussi nulle que possible. Les Français sont libres d'être athées, sceptiques, ignorants, superstitieux, livrés à toutes les plus viles croyances, libres d'adorer Mammon ou la Vénus impudique, et de ne pas connaître d'autres dieux, mais ils ne sont pas libres de rendre un culte au Dieu véritable. Cette situation déplorable est la source principale de la corruption morale dont nous voyons les effets. Si tout se corrompt dans l'État, si la vénalité est à l'ordre du jour dans le monde officiel, si l'intérêt domine aujourd'hui et gouverne le plus grand nombre des hommes, si la vertu est tournée en ridicule et le vice préconisé et exalté, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Nulle pensée religieuse ne peut s'élever pour purifier le monde et dissiper l'orgie, pour rappeler les hommes au sentiment de leur dignité, de la dignité humaine. Cette absence de tout culte véritable, de toute religion efficace, tient à deux causes, l'esprit des gouvernants et l'esprit des gouvernés. D'un côté, les gouvernants sont incapables de conduire la société à son but, qui est l'unité religieuse et politique, l'association, l'organisation, la synthèse. Ils n'ont pas les lumières ni l'inspiration du cœur nécessaires pour cela. Ils sont mus par des instincts et ne croient qu'à des instincts. Ils ne se considèrent pas et ne sont pas considérés comme des législateurs, mais comme des gendarmes qui maintiennent un certain ordre dans la société par des lois répressives de toutes sortes, des confiscations, des amendes, la prison et l'échafaud. Ils ne craignent rien tant que la discussion de principes qui pourrait rendre aux hommes quelque courage, quelque noblesse, quelque élévation. Ils aiment mieux avoir à gouverner matériellement que spirituellement. Des athées leur conviendraient mieux à conduire que des hommes religieux, mais ils aiment encore mieux l'indifférence en matière de religion. Il leur faut une apparence de culte pour gouverner. Ils trouvent cette apparence dans ce qu'ils nomment officiellement la religion de la majorité des Français, et ils s'en servent. D'un autre côté, la France est, comme on dit, philosophe. Elle a passé à pieds joints sur le protestantisme pour embrasser la philosophie. Seulement, la philosophie tendait à un but, la constitution d'une unité religieuse. La philosophie était en germe une religion. La France ne le voit pas encore. Elle s'égare dans le dédale de l'athéisme et du scepticisme. Est-il étonnant que ses gouvernants la traitent comme une nation de sceptiques indifférents et qu'ils foulent audacieusement aux pieds la liberté des cultes, sans rien faire pour amener l'unité sociale et religieuse qui rendrait les sectes inutiles? Il y a donc une sorte de compromis entre les gouvernants et les gouvernés pour anéantir ce qu'on a pourtant juré de concert. La liberté des cultes n'existe réellement en France que pour cet ancien culte que nous appelions tout à l'heure, en parlant du degré de foi que nos gouvernants lui prêtent et de l'usage auquel il l'emploie, une apparence. La liberté des cultes, c'est la liberté du culte catholique, c'est la liberté des moines de toute espèce dont la restauration est aujourd'hui secrètement encouragée ou tolérée ouvertement par nos hommes d'État. Jésus, parlant au nom de la vérité divine, a dit: partout où vous serez trois réunis en mon nom, je serai avec vous. Que trois hommes se réunissent aujourd'hui au nom de la vérité divine, on les dissipera sous prétexte d'associations politiques. Mais on enverra à Rome un ambassadeur pour obtenir du général des jésuites qu'il permette que l'on abrite les jésuites contre l'opinion publique. Pas de milieu pourtant. Il faut qu'une religion nationale se constitue ou que des sectes se constituent. Puisque vous faites de la France une succursale de l'Angleterre, peut-on dire à nos gouvernants « Donnez-nous au moins la liberté anglaise ». Au lieu de crier contre les jésuites, devrait-on dire à ceux qui vont chercher dans les annales de l'Ancien Régime des arrêts de proscription « Ayez le courage de vos opinions ». Si vous êtes catholique, de quel droit trouvez-vous à redire ce que le sacerdoce catholique approuve ? Comment, soumis au pape, pouvez-vous incriminer son infaillibilité? Qui vous autorise à penser que ces jésuites que vous repoussez ne soient pas utiles au salut de l'Église? Connaissez-vous mieux ce qui intéresse l'Église que vos pasteurs? Si au contraire vous n'êtes pas catholique, osez donc le montrer en pratiquant un autre culte. Sans doute, les sectes sont un mal, et la liberté des cultes, dont on a voulu faire un principe absolu, n'a qu'une valeur temporaire. Mais tant que la société ne sera pas capable de se constituer religieusement, d'émettre son symbole, sa foi, ce principe sera légitime. Les sectes sont aujourd'hui nécessaires, précisément afin de faire disparaître cet esprit d'individualisme, cet esprit de scepticisme et d'athéisme, qui divise la société en autant de religions qu'il y a d'individus, ou plutôt qui anéantit toute religion. Il faut des sectes afin que l'unité renaisse. Il faut des sectes pour procurer l'unité. Le moment approche où quiconque conservera quelque trace de pudeur et de vertu devra revendiquer cette liberté des sectes, comme une imperfection sans doute, mais comme une imperfection nécessaire, et comme l'arche de salut sans laquelle toutes les âmes périraient dans la dissolution morale dont nous avons sous les yeux le triste spectacle. Ce n'est pas l'hypocrisie, en effet, qui peut nous sauver. Quiconque aujourd'hui sacrifie à l'hypocrisie, et sous prétexte de ne pas aimer les sectes, pactise à l'occasion des actes les plus solennels de sa vie avec un culte qui n'a pas sa foi, commet un sacrilège, ment à Dieu et aux hommes, abuse de ce qu'il y a de plus saint, profane la vie même, se perd et perd les hommes, ses frères, en leur donnant l'exemple du mensonge et de l'immoralité. Ce qui peut nous sauver, c'est la foi, c'est la religion. Ce qui nous sauverait, ce serait l'unité religieuse. Ce qui nous sauvera, c'est la secte qui aimera l'unité au point d'être l'unité en germe, c'est la secte qui réalisera la liberté, la fraternité, l'égalité. Introduction. Les siècles avaient succédé aux siècles, et toujours l'homme s'était montré adonné à l'idolâtrie. Le christianisme, venu après tant d'idolâtrie, en avait encore été une. Les chrétiens avaient adoré le Verbe de Dieu dans un homme, et non content d'adorer cet homme comme une incarnation de Dieu, ils avaient fait de sa mère, de ses apôtres, de ses martyrs, de ses saints, des espèces de dieux secondaires, et un panthéon nouveau s'était substitué au panthéon du polythéisme. Toujours à la suite des sages, il s'était trouvé des imbéciles et des fripons qui avaient tourné la religion à la superstition et à l'idolâtrie. On leur avait montré le soleil matériel comme un symbole du soleil divin, et ils avaient adoré le soleil matériel. On leur avait montré, dans toute génération, l'attrait de deux principes mystérieusement unis, et ils avaient adoré le lingam, et les cultes orgiaques étaient sortis de là. Des sages leur avaient enseigné la doctrine de l'idéal, et ils avaient adoré ces sages comme étant l'idée même de Dieu incarné. Enfin, au XVIe siècle, après un combat long et acharné, le panthéon chrétien croula, et personne dans notre Occident ne sut plus comment adorer Dieu. Et pourtant les sectes ennemies continuaient à se déchirer les unes les autres. Alors, sous le nom de philosophes, vinrent des hommes qui prêchèrent la tolérance, et qui, pour l'établir, arborèrent hardiment la négation de tout culte et de toute religion. Ils ont dit « Mieux vaut n'avoir pas de religion que d'en avoir une mauvaise et fausse. Or, il est impossible à l'homme d'avoir une religion qui ne soit pas mauvaise et fausse, car il lui est impossible d'être religieux sans superstition. De quelque façon qu'il s'y prenne, il se fera toujours des idoles. Comment lui serait-il donné de concevoir l'être unique, universel, qui vit en chacun de nous et dans le monde? L'énigme du sphinx de Saïs sera toujours une énigme. Dieu est celui qui est, qui a été, qui sera, mais jamais personne ne lèvera le voile qui le couvre. Toujours donc les hommes, au lieu de Dieu, adoreront des images fausses de Dieu, des ouvrages de Dieu, ou de leurs propres mains, des astres, des pierres, des plantes, des animaux, des hommes. Toute religion sera une idolâtrie. Et, ayant ainsi dit, ces philosophes se levèrent, le cœur plein d'un mouvement religieux, alors même qu'ils combattaient toute religion, et ils s'écrièrent « Soyons athées, et que tout peuple, après nous, soit athée. » Révolution française, sainte révolution, la plus grande que l'Esprit de Dieu ait jamais inspirée, c'est ainsi que, par zèle religieux, tu proclamas l'athéisme. Car j'appelle athéisme aussi bien ce théisme vague et sans métaphysique qui admet un Dieu, mais un Dieu hors de nous, hors du monde, un Dieu tout semblable au Dieu d'Épicure, trop haut placé qu'il est dans les sphères célestes pour s'occuper des mouvements de notre âme, que cet athéisme franc et non déguisé qui proclame, pour cause première et unique de tous les phénomènes, la matière et le mouvement. Quel rapport, en effet, peut-il y avoir entre nous et la divinité, telle que les théistes du XVIIIe siècle la conçoivent. Ne disent-ils pas eux-mêmes qu'il est absurde de supposer aucune communication entre l'homme, être fini et semblable à toutes les autres créatures, et cet être incompréhensible qu'ils veulent bien reconnaître au-dessus de tous les êtres? Autant donc vaut n'y pas penser à ce Dieu, autant vaut l'oublier, oublier qu'il existe. Oui, il faut bien le reconnaître, à la suite du protestantisme et de la philosophie, nous sommes devenus athées. Campbell osa le premier poser ce problème. Vaut-il mieux un peuple athée qu'un peuple idolâtre, et ne serait-il pas meilleur que les hommes n'eussent aucune religion que d'en avoir une fausse? Bell fut obligé de convenir que jamais jusque-là peuple n'avait existé sans religion et sans culte. Mais l'hypothèse de Bell est maintenant réalisée, ou près de l'être. Nous sommes à la veille d'être un peuple athée. Qui peut penser en effet que les débris de christianisme qui se montrent encore au milieu de nous puissent subsister longtemps? Déjà, toute la partie éclairée de la nation vit dans l'irreligion. La masse entière suivra. Le temps arrivera donc où un peuple existera qui ne connaîtra pas de Dieu et ne rendra aucun hommage, aucun culte à la divinité. Mais vraiment, sommes-nous un peuple? Et surtout, serions-nous un peuple si nous continuions à pousser cette décadence jusqu'au bout et à laisser crouler les vieux restes de religion et de culte qui se débattent en vain contre leur mort prochaine, sans penser à remplacer la foi qui va nous manquer par une foi nouvelle, aussi vraie et aussi solide que celle-là est fausse et déjà éteinte dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'un peuple, en effet, et à quelles conditions une agrégation d'hommes est-elle un peuple? Est-il possible à une nation d'avoir le sentiment de la patrie sans une croyance religieuse, des lois civiles véritables sans loi religieuse? Peut-elle savoir ce que c'est que morale sans dogme religieux? Peut-elle connaître la justice et corriger ses coupables sans religion? Peut-elle élever ses enfants sans religion? Ses citoyens peuvent-ils vivre autrement que d'une vie matérielle s'ils n'ont point de communication religieuse entre eux, s'ils n'ont point de culte? Une république, en un mot, où aucune nation de la divinité n'est reconnue, peut-elle être autre chose qu'une triste et épouvantable anarchie? Voilà les questions que je me vois forcée d'examiner au début de cet écrit.